À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Retrouver la source intérieure », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Lors de l'émission précédente, je vous ai parlé de trois détresses. De quoi s'agit-il? Je vous disais que l'une des conséquences de la division intérieure qu'entraîne une vie spirituelle et une recherche de toute puissance, c'est que nous sommes confrontés à nos fragilités, et celles-ci peuvent s'exprimer à travers ce qu'on peut appeler trois détresses. L'angoisse, l'absurdité de la vie, la solitude, dans le sens d'isolement. C'est un psychologue et philosophe allemand qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle et qui a fait un essai de synthèse pratique entre spiritualité orientale et christianisme, Graf Durkheim, qui parle de ces trois détresses. Cela peut être d'ailleurs une détresse métaphysique radicale. Il dit que nous sommes citoyens de deux mondes, le monde de la réalité existentielle, borné par le temps et l'espace, accessible à la raison et à ses pouvoirs, et puis cette réalité essentielle qui est au-delà du temps et de l'espace et qui nous renvoie à notre conscience intérieure et qui ne dépend pas totalement de nos pouvoirs. Il montre aussi que lorsque l'on vit une de ces détresses jusqu'à un état paroxystique, très très grave, eh bien c'est parfois le début d'une conversion, le début d'une nouvelle expérience spirituelle. Alors voyons en quoi cela consiste. J'y reviendrai pendant plusieurs émissions sur cette réalité. La première détresse, c'est celle qui est liée à l'angoisse face à la mort. Nous vivons dans un monde où la mort est en grande partie occultée. Nous savons que dans le temps, en ville entre autres, on pouvait repérer qu'il y avait un défunt dans la rue lorsqu'il y avait un catafalque ou un dais qui était installé à l'entrée de la maison et que tout le quartier savait qu'on avait perdu un membre de la famille. On exposait le corps pendant un certain temps. Les gens venaient, faisant des rituels comme des bénédictions. Il y avait des veillées. On évoquait le défunt avec tous ceux qu'il avait connus des environs. Souvent même, on portait un signe distinctif qui faisait que quand on allait au travail ou qu'on croisait quelqu'un, tout le monde savait qu'on était en deuil. Aujourd'hui, il y a comme une désocialisation de l'expérience du deuil. On meurt à l'hôpital, le corps est déposé dans une chambre funéraire. Et c'est ainsi que nous découvrons, parfois très longtemps après, que telle gentille petite vieille avec qui on se retrouvait chez le boulanger, eh bien, en fait, elle est morte. C'est pour ça qu'on ne la voit plus. Ainsi, il y a une sorte d'anonymat de la mort. Par ailleurs, dans un monde marqué par la violence et l'individualisme, les gens s'entourent de toutes sortes de sécurités. Et le danger, c'est de ne plus compter que sur soi-même. Alors, cette peur de la mort, que nous savons inéluctable, mais que nous n'avons pas appris à apprivoiser, elle peut générer l'angoisse de l'inconnu, l'angoisse du vide. Alors bien sûr, cette angoisse est normale, mais elle peut envahir la personne à un tel point et être reliée à d'autres éléments que la mort purement biologique, qui fait que, pour finir, la personne ne vit plus d'autonomie suffisante ou n'est plus capable de connaître la paix. Nous allons voir comment cette expérience, cette peur de la mort peut être dépassée sur un chemin spirituel, même si il restera un fond d'angoisse lorsque l'expérience se présente. Une autre conséquence de cette destruction ou déstabilisation de nos profondeurs à cause d'une vie superficielle, c'est le sentiment d'absurdité de la vie, l'impression d'un non-sens. Beaucoup d'entre nous sont pris dans un rythme de vie tellement intense qu'ils n'ont plus le temps de s'interroger sur les raisons d'un tel déploiement d'énergie. Peut-être que parmi ceux qui écoutent, il y en a qui se posent la question le matin, mais dans le fond, pourquoi est-ce que je me lève ? Souvent, on ne compte que sur soi-même. Il n'y a plus de dimension transcendante. Et quand les circonstances de la vie, une épreuve, les poussent à s'interroger sur le sens de leur existence, certains ont l'impression d'une vanité, d'une énergie perdue en vain. Surtout quand, par exemple, on fait l'expérience d'un rejet ou d'un échec. Échec dans le couple, rejet professionnel, on s'est épuisé comme ouvrier, comme cadre, on est arrivé à un certain âge, et puis à un certain moment, on ne veut plus de vous, et on n'a pas de possibilité de trouver un nouveau travail, par exemple. L'impression d'une vanité, tant d'énergie déployée, et pour finir, l'impression que la société n'a même pas besoin de nous. D'autres fuient à ce moment-là dans le divertissement. Ils ne savent plus pourquoi ils se donnent tant de peine et ont l'impression d'une absurdité et pour finir d'un non-sens de la vie. Que la frénésie de consommation et de possession de biens ne parvient pas à dissiper. Et ce n'est pas sans raison qu'il y a une augmentation des suicides ces temps-ci. Une troisième conséquence de cette perte de contact avec le cœur profond, c'est la solitude prise dans le sens d'isolement. En effet, il existe une solitude bénéfique et revivifiante, et nous avons tous besoin d'espaces où nous nous retrouvons nous-mêmes, où nous pouvons respirer, où nous pouvons nous poser, où nous ne sommes pas obligés d'être continuellement actifs ou en relation. Mais je parle ici de cette solitude, cet isolement qui découle de la fermeture sur soi. Et à ce moment-là, nous nous identifions à notre petit moi, nous comptons sur nous-mêmes, nous tournons autour de nous-mêmes. Et dans certains cas, nous nous installons dans la complaisance d'une pure rationalité. Et on exclut toute dimension transcendante, toute dimension relationnelle. Il s'agit alors de combler le vide. Et cette quête continuelle de satisfaction des besoins, et nous avons vu la différence entre besoin et désir dans d'autres émissions, cette tentative de s'en sortir seul finit par couper des autres et de la source intérieure. Et alors l'isolement débouche sur un sentiment de stérilité. Alors d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre, nous sommes confrontés à l'une de ces trois détresses. Suivant notre parcours, notre âge, les événements que nous vivons. Et donc nous sommes aussi invités à parcourir un chemin de prise de conscience, de méditation, de prise de distance, pour arriver à une libération intérieure. Lorsque nous essayons de pratiquer des temps de méditation, et peut-être particulièrement le genre de méditation dont je vous ai parlé et sur lequel je reviendrai, on peut découvrir que la force, qu'une force profonde venant de nous, mais pas que de nous, peut l'emporter sur la peur de la mort. Sur l'angoisse de la mort. Qu'une lumière peut venir éclairer notre vie et lui donner un sens, découvrir qu'il n'y a pas que du non-sens. Et que l'amour peut nous libérer de cette solitude et de cet isolement. Mais bien sûr, cela demande des choix. Prenons simplement conscience pour le moment que nous sommes tous concernés d'une façon ou d'une autre par ces trois détresses à des degrés divers. Et par un chemin spirituel qui unifie notre psychisme, notre physique, notre dimension spirituelle, nous pouvons arriver à une libération de forces profondes qui sont en nous. Nous pouvons aussi accueillir une force qui nous vient d'ailleurs, qui est de l'ordre de la grâce. Ainsi, la force vainc l'angoisse, la lumière illumine le non-sens et l'amour libère la solitude. Et cela, je dirais, quelle que soit notre référence spirituelle ou notre absence de référence spirituelle si nous sommes dans un humanisme de type athée, par exemple. Parce que c'est une question anthropologique. Cela concerne tout homme. Personnellement, je crois que le monde et l'homme sont traversés par une puissance de vie qui vient de bien au-delà de l'humain. Certains diront que cette puissance vient du cosmos, que c'est de l'ordre de l'énergie. D'autres d'un dieu créateur. Il y a différentes conceptions de cette force de vie, mais nous savons et nous sentons que nous sommes tous appelés à croire à la vie et à choisir la vie. quelle que soit la façon dont nous la concevons, pour aller justement au-delà de l'enfermement que provoquent les détresses. En chacun de nous, il y a un appel à la vie, un appel à un mieux-être, un appel à une fécondité, à un déploiement. Les grandes traditions spirituelles nous disent que nous pouvons déjà en connaître un avant-goût aujourd'hui. Nous pouvons déjà faire l'expérience d'une plénitude, même si celle-ci n'est pas parfaite. Et dans la Bible, il y a un passage de Deutéronome qui dit « Voici, je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » C'est donc pas simplement « reçois la vie », mais c'est « choisis la vie ». C'est une démarche, une décision. Et dans la mesure où nous devenons conscients de cette puissance en nous, cette puissance de choix, de décision, nous pouvons devenir un sujet actif sur notre chemin de croissance. Nous ne sommes plus dans une dynamique de fatalité, même si nous traversons toute une série d'épreuves. Nous ne sommes pas simplement un objet ballotté par les événements ou les situations qui nous sont imposées, même si, sur le plan familial ou professionnel, nous nous sentons parfois dépassés par les événements. Nous n'avons pas pu faire les choix qu'il aurait fallu au bon moment. Ou parce que, effectivement, nous avons un handicap profond ou que nous traversons une période difficile. En accueillant et en déployant les capacités vitales qui sont en nous, nous participons à notre propre libération et aussi à celle des autres. Ce n'est pas de l'ordre de la magie, c'est de l'ordre d'un chemin. J'ai déjà dit dans cette émission que rien que le fait de se mettre en route était un début de libération. Nous décentrer de notre petit moi, arrêter de nous appesantir sur nos états d'âme et essayer de creuser plus profond et d'aller au-delà. Au-delà dans la relation, en nous ouvrant aux autres, à un tout autre éventuellement, au cosmos, au divin, quel que soit le nom que l'on emploiera, mais qui nous sort de ce repli. Et dans ce domaine, la méditation, telle que nous en avons parlé, dans cette démarche de nous poser, de nous reposer, de nous immobiliser, de prendre le temps du silence, le temps de l'écoute, le temps de l'intériorité, laisser monter ce qu'il y a en nous, nous apaiser, nous accueillir, nous recueillir, pour nous offrir, eh bien c'est un chemin qui peut nous aider à retrouver notre profondeur, retrouver une unité et dépasser précisément ce déchirement que peuvent provoquer les détresses, parce que celles-ci ne sont pas fatales sur un chemin spirituel. Et nous allons voir dans un instant comment nous pouvons nous engager sur un chemin qui va vers une libération par une pratique de la méditation. Pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, je rappelle que je suis en train de parler d'un chemin pour dépasser les détresses que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Il y en a plusieurs, mais j'en cite ici trois. Cette expérience de l'angoisse face à la mort, ce sentiment d'absurdité face au non-sens, ce qui apparaît comme un non-sens de la vie, et puis cette peur de la solitude, de l'isolement. Et je disais que nous pouvons accueillir ces détresses et les dépasser en parcourant un chemin de méditation. J'ai déjà dit auparavant dans d'autres émissions que un des premiers indices que nous progressons dans la vie spirituelle, c'est que nous grandissons en liberté intérieure. Une liberté où nous ne tournons plus simplement autour de notre petit moi qui revendique toujours plus d'avoir, plus de pouvoir, plus de savoir et plus d'indépendance d'une certaine façon. Une liberté intérieure qui nous rend aussi capables d'accueillir la réalité telle qu'elle est. Bien sûr, il y a une part de la réalité que nous pouvons changer, mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup de choses dans la réalité qui sont là devant nous et que nous avons à accepter. Nous accepter nous-mêmes, nous accepter les autres avec leurs différences, par exemple. Un deuxième critère, c'est une avancée dans la compassion et dans la tendresse de plus en plus gratuite. Le développement de cette liberté intérieure et de cette compassion nous indique que nous avançons sur un chemin de croissance spirituelle, et cela quelle que soit notre tradition. On ajouterait dans le cas d'un critère chrétien que le signe que nous grandissons en christianisme, c'est que nous sommes de plus en plus semblables au Christ, de plus en plus unis à lui. Ce qu'on appellera la configuration au Christ, avoir un visage qui lui ressemble, si vous voulez. Par ailleurs, les traditions orientales reprochent souvent à la sagesse occidentale de regarder vers le dehors, tandis que la sagesse orientale regarde vers le dedans, comme le dit par exemple le maître Suzuki. Le grand danger, c'est de regarder en dedans comme on regarde en dehors, c'est-à-dire de transformer la vie intérieure et le chemin personnel, l'intimité, comme quelque chose que l'on pourrait observer de façon positiviste, objectivante. Notre tentation à nous occidentaux, c'est de limiter la réalité à ce que l'on peut voir et mesurer. Et c'est là que, dans une approche de type psychologique, par exemple, et c'est utile que nous ayons à certains moments les recours des sciences humaines comme la psychologie, eh bien, on pourrait analyser le psychisme essentiellement comme un objet que l'on va essayer d'inventorier, en risquant de réduire ou d'occulter ce qui fait la profondeur, la dimension d'intériorité et de mystère de l'être humain. Il y a un au-delà de l'homme, auquel ne touche pas la psychologie, et qui pourtant doit être respecté. Et nous le savons si nous sommes engagés dans un travail sur nous-mêmes. Il y a en nous un lieu qui est absolument unique et qui est de l'ordre du mystère, pour nous et pour les autres. Et même si ce travail psychologique est un travail de croissance pour nous, ce lieu nous appartient et relève en même temps de l'au-delà. L'erreur serait de réduire la vie intérieure à une démarche purement psychologique, mais l'erreur serait aussi de réduire la psychologie à une approche purement spiritualisante des choses. Il peut être nécessaire de suivre un traitement psychothérapeutique, mais cela ne remplace pas le chemin de l'intériorité. Il faudrait donc regarder plutôt en dehors comme on regarde en dedans, c'est-à-dire avec ce regard qui va au-delà de l'apparence des choses. J'aime cette expression très ancienne qui nous dit, dans la tradition orientale bouddhiste, « voir l'infini dans le fini des choses et l'éternité dans l'instant qui passe ». La réalité visible nous renvoie à un invisible, et cela nous dit qu'il y a plus en nous. À nous de l'expérimenter dans la mesure où nous nous engageons sur un chemin d'intégration et de détachement. L'intégration concerne notre façon de dépasser la dispersion pour nous recentrer sur nos profondeurs, prendre des espaces pour respirer, pour nous interroger sur qui nous sommes et sur là où nous voulons aller. Et le détachement, c'est celui de la simple satisfaction des besoins pour rester attentif à notre désir profond. Nous en avons longuement parlé. C'est lui qui nous ouvre à l'au-delà qui est en nous. Et nous nous sommes engagés, du moins j'ai proposé de réfléchir un petit peu, et peut-être pour certains d'essayer l'expérience, de faire un travail sur le corps et une pratique de la méditation qui renvoie à une posture silencieuse, un travail d'écoute et de présence au souffle, de développement de ce souffle, un moment d'immobilité, de présence à soi, de présence à un au-delà dans nos profondeurs. Pacifier le mental par un travail qui n'est pas que de l'ordre de la rationalité, qui fait certes appel à l'intelligence, mais pas seulement à l'intelligence rationnelle. Il y a une intelligence du cœur. Il y a un discernement du cœur, à travers, par exemple, une façon de relire notre quotidien et d'y discerner l'action de Dieu. On entend beaucoup parler de se déconnecter du mental dans toutes sortes de pratiques méditatives contemporaines en référence avec l'Orient. Attention, il ne s'agit pas ici de rejeter la raison, parce que il nous faut bien, pour connaître, aussi utiliser notre intelligence. Petit à petit, nous trouverons notre place dans le monde et un sens nous sera donné. Et nous pourrons faire l'expérience d'une certaine plénitude dès maintenant. Nous pouvons connaître de grands moments de paix, de sérénité, de réconciliation. Nous pouvons grandir dans cette vie que nous avons choisie. Et c'est saint Irénée de Lyon qui disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Dans les grandes traditions, le mal dans le monde est souvent perçu comme le résultat de la distorsion de la relation à soi-même, à l'autre et au divin. Division, distorsion, éclatement. Et nous en revenons à nos trois détresses. Angoisse face à la mort, désespoir du non-sens, solitude dans l'isolement. Et nous allons découvrir qu'il y a une vie en nous qui ne vient pas de nous. Nous allons découvrir, ça c'est en réponse à la détresse face à la mort. Nous découvrirons et offrirons également que notre monde n'est pas un chaos, qu'il y a de l'ordre dans le cosmos jusqu'à un certain point. Et en tout cas que nous y avons notre place. Ça s'efface en nos sens. Et dans cette démarche, ce n'est plus le petit moi qui revendique toujours de se mettre en avant, mais c'est le moi profond relié à la source, le cœur profond qui nous donne le chemin et qui peut nous révéler notre juste place dans l'univers. Et nous pouvons découvrir progressivement, grâce à la pratique de la méditation, comment ces trois aspects de la détresse fondamentale vont s'approfondir et recevoir une réponse. Nous verrons aussi d'ailleurs comment dans la tradition chrétienne, cette expérience existentielle peut être vécue en référence à la conception chrétienne de Dieu. Dieu créateur et père, Dieu qui est aussi relation, Dieu qui donne sens à sa création. Seul Dieu est Dieu, mais il prend de nombreux visages. Il est unique, mais il se décline en trois personnes qui en révèlent chacune une dimension inséparable. Père, Fils, Esprit. Les trois personnes divines sont concernées par les trois détresses. Ceux qui, parmi les personnes qui nous écoutent, sont de tradition chrétienne, ils les retrouveront avec un sens particulier, éclairé par l'Écriture, par exemple. Lorsque je dis à propos de la peur de la mort qu'il y ait une vie qui ne vient pas de moi, eh bien, il s'agira dans cette perspective de la relation à un Dieu qui est à la fois créateur et père, et qui est source de vie au-delà de la mort. Et quand il est dit que la vie humaine n'est pas faite de non-sens, et que nous ne sommes pas devant le désespoir d'un absurde, qu'il y a une lumière, je peux renvoyer à cet ordre des choses qu'il y a dans le cosmos, en me référant au Christ qui est appelé le Verbe, la parole, celui qui donne le nom. Vous vous souvenez peut-être des récits de la création, où on dit que Dieu dit et cela fut. Et où dans la tradition chrétienne, on dit que c'est le Christ lui-même qui était la parole, dès l'origine. Eh bien oui, notre monde est un monde où il y a des distinctions. La création ne s'est pas faite dans la confusion, mais dans la distinction, la séparation du ciel et de la terre, de l'eau. Ensuite, la distinction entre les différentes créatures, le nom donné à ces créatures. Eh bien, cela nous dit que nous ne sommes pas dans un désordre, nous ne sommes pas dans un non-sens ou dans un absurde. Le Verbe divin est à l'origine de l'organisation du monde, de même qu'il est source de lumière pour le comprendre. Cette référence peut nous aider lorsqu'on est face à un sentiment d'absurde et de non-sens et nous poser la question « Qui suis-je dans le fond aux yeux de Dieu ? Quelle relation est-ce que j'entretiens avec lui ? Enfin, par rapport au sentiment d'isolement et de solitude, nous avons vu que l'expérience du souffle, vécue en profondeur, dans une respiration ample, dans le temps de méditation, est unifiante. Il y a un sentiment d'harmonie avec une totalité. Et ce souffle vivant et mystérieux qui nous traverse, je l'ai déjà dit, c'est ce qu'on appelle en hébreu la roua, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le souffle divin pour les Juifs, l'Esprit Saint pour les chrétiens. Et donc, quand nous respirons en profondeur, nous accueillons dans le souffle l'Esprit. Dieu-Esprit. Parce que Dieu est le souffle de l'homme. Puisque pour créer Adam, nous dit le récit, pétri de la poussière et pétri de ses mains, il souffle sur lui et lui donne son propre souffle. Ainsi, du coup, nous découvrons que la Trinité, le Père, le Fils, lumière et verbe, et l'Esprit sont présents, tous les trois, dans la réponse chrétienne aux trois détresses. Et nous verrons plus tard comment ils sont présents aussi dans le mouvement de la méditation. Grâce à cette pratique de la méditation, ceux qui ont des références chrétiennes peuvent vivre une relation à un Dieu qui les recrée, en leur donnant la force créatrice de l'amour paternel, retrouver un sens par la relation au Christ qui est lumière et vie et qui me nomme et qui m'appelle par mon nom, et enfin, cette unification par l'Esprit qui emplit toutes choses et donne le dynamisme à toute la création et à toute l'humanité. Nous verrons comment, plus tard, cette expérience-là peut déboucher sur une joie indéfinissable, une joie imprenable. C'est bien celle du salut apporté en Christ.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.